Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes le vendredi le 18 janvier 2013 et vous êtes en direct avec les ondes sur les ondes pardon de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Chers auditeurs, comme vous le savez bien, cette émission vous appartient. C'est un espace réservé pour que votre témoignage soit entendu publiquement et que d'autres victimes peuvent déjà trouver dans votre courage un modèle à suivre. Alors, dévoiler l'agression de l'autorité n'est pas une chose facile, nous sommes conscients. Dire la vérité et dénoncer l'injustice est un devoir de citoyen pour nous, même si certains fonctionnaires de l'État sont corrompus, malhonnêtes, indignes de la fonction qu'ils occupent. Vos témoignages sur ces ondes restent la seule et unique preuve de votre implication sociale et de votre engagement envers cette société qui n'est pas autre que la vôtre. C'est votre propre société. Alors vous êtes un citoyen qui refuse l'injustice, qui rejette l'abus de l'autorité dans toutes ses formes. Si vous êtes ce citoyen, vous devrez alors dénoncer et s'engager d'apporter ce qui est mieux pour cette société. De ma part, de notre part, je vous confirme aussi que l'abus de l'autorité prend tellement de l'ampleur dans cette société au point que je conseillerais personne de venir s'installer ici en ce moment. Madame, monsieur, n'attendez pas d'être victime à votre tour pour agir et dire non à l'injustice, non à l'abus de l'autorité. Combien de personnes nous avons rencontrées dans ce chemin ardu, un chemin difficile ? Imaginez-vous que chaque jour vous êtes témoin de l'injustice, de l'abus de pouvoir. Chaque jour vous avez devant vous une citoyenne victime, encore si ce n'est pas deux, qui vous suppliera de faire quelque chose pour eux. Par exemple, parce qu'il a cogné, la personne a cogné ou la victime a cogné dans toutes les portes pour avoir de l'aide sans parvenir réellement. Alors la justice est devenue un marché sur le plus, ou plutôt pour les plus offrants. Et celles et ceux qui n'ont pas malheureusement les moyens, ils seront sacrifiés tout simplement en marge de cette machine qui broie sans merci, les vulnérables innocents. Alors, au milieu de ce décor un peu trop sombre à notre goût, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise sinon demeurez solidaires. L'un pour l'autre, une injustice pour l'un, disait Martin Luther King, est une injustice pour tous. Être solidaire veut dire aussi épargner à d'autres victimes l'amertume de l'injustice. Dans cette société moderne qui nous a tous floués, nous tous citoyens, en quête de justice et de liberté. Conjuguer les efforts justement de chacun de nous. Je ne vous dis pas qu'avec ça nous allons gommer l'abus de l'autorité de notre Québec, mais nous pouvons décourager les abuseurs et baisser le nombre de victimes considérablement. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui soi-disant fait la surveillance civile dans nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer l'abus de pouvoir. Si vous êtes, chers auditeurs, chères auditrices, victime ou témoin de l'abus du pouvoir ou de l'abus de l'autorité, vous êtes témoin d'une injustice et que vous souhaitez partager avec d'autres citoyens ce souci invivable, alors nous sommes là pour vous entendre, pour vous appuyer, pour vous accompagner dans vos démarches visant peut-être à rétablir cette injustice. Appelez-nous au 514-273-4302, je répète, au 514-273-4302, ou bien sûr nous écrire à info@commercialmage-québec.com. info@commercialmage-québec.com. Ce matin, nous allons revenir au témoignage de cette victime qui a été volée et agressée sur le terrain de sa propre demeure par les agents de la SPVM, poste 31. La victime, un inspecteur à Hydro-Québec, Denis Cloutier, n'a jamais pensé être victime à son tour. Quand je l'ai rencontré la semaine passée, il a juré de ne plus voir la vie comme avant. Alors, traumatisé, humilié, violé au deuxième degré, M. Cloutier n'arrive pas encore à réaliser ce qui lui a été arrivé. Dans cette émission, nous allons analyser ensemble l'événement de cette agression gratuite de la part des agents de la SPVM, le poste 31 cette fois. Contre qui? Contre ce citoyen qui venait de rentrer chez lui après son quart de travail la nuit du 4 janvier vers minuit et quart. Vous allez voir dans ces images la vulnérabilité des citoyens face à l'aveuglement de l'abus de l'autorité. Vous allez voir aussi comment toutes les portes se ferment face à la victime qui tente de se plaindre contre l'autorité, contre le pouvoir. Vous allez voir aussi comment le témoignage de la victime sera modifié, amputé, censuré à tous les niveaux afin de protéger la bêtise, la connerie, la stupidité de l'autorité. Attention, la phrase qui a fait le titre d'un article publié dans la presse de cette semaine, mardi le 15 janvier. Et avec ce titre-là, tout est bien résumé. Le titre, si vous voulez vérifier, c'était « Je pensais que j'allais mourir ». Et la journaliste qui avait écrit cet article, Mme Gabrielle Duchesne, elle avait compris le message de la victime qui lui a inspiré ce titre « Je pensais que j'allais mourir ». Et je confirme que la victime a pu bel et bien mourir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le premier cas et ça ne sera pas, bien sûr, le dernier. Dans cette émission, je vous parlerai aussi d'un cas similaire, un cas parmi d'autres où la victime est morte faute de l'utilisation d'une force trop excessive et non nécessaire de la part de la SPVM, de la part de l'autorité. Est-ce que c'est une lâcheté, incompétence, des leçons données gratuitement à l'ensemble de la population pour semer la peur, ou bien simplement c'est que le citoyen ne fait pas le poids pour être protégé? Est-ce que la politique, ou bien le politique si vous voulez, est conscient de cette réalité et de ses conséquences? Est-ce que nous devrons tous parler au même temps pour écouter, ou bien on ferme les yeux et on laisse le mal se propager? Chère auditrice, chers auditeurs, restez à l'écoute et n'oubliez jamais que nous sommes tous exposés d'être victimes de l'abus de l'autorité. Après notre thème musical, nous allons revenir avec le reste de cette émission.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette. 20 ans de prison mérité reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et les portés. Après la roue de la fortune, un baf obscène, est un lune.
Alors voilà, bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Avant de me lancer dans cette analyse, je souhaite vous faire entendre une partie du témoignage de la victime pour celles et ceux qui n'ont pas été à l'écoute la semaine dernière. Et je vous rappelle que le nom de la victime, cette fois, c'est Monsieur Denis Cloutier. Il est inspecteur à Hydro-Québec et résident de l'île de Montréal. Aujourd'hui, il dit qu'il il est content, si vous voulez, d'être en vie, même s'il n'avait rien à se reprocher. Alors, rapidement, donc, je vous laisse avec, avec une partie, j'ai dit bien une partie de ce témoignage, et je reviens avec notre analyse. Alors voilà, bonjour Monsieur Denis Cloutier, nous sommes chez vous aujourd'hui, le 8, c'est ça, le 8, donc mardi le 8 janvier 2013, et vous nous avez appelé. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous nous avez appelé?
Merci beaucoup d'abord de votre aide. Merci beaucoup. Vous êtes venu ici. Vous êtes très généreux de votre temps. J'apprécie beaucoup. C'est la raison, c'est que j'ai eu une attaque très, très, très sauvage.
Non, je vous ai demandé qui vous a demandé de nous appeler.
Oui. C'était la CAVAC.
C'est les CAVAC, ouais.
C'est les gens de la médecine qui m'ont suggéré d'appeler la CAVAC.
Ouais, c'est la Ville Santé qui vous a demandé d'appeler la CAVAC.
Mais ils m'ont suggéré que ce serait une bonne chose.
Et d'appeler le mouvement Action Justice pour revenir en aide.
Puis par la suite, la CAVAC m'ont dit que dans ce domaine-là, ce serait vraiment mieux que je fasse affaire avec le mouvement Action Justice. Mouvement Action Justice, oui. qui était des spécialistes dans ce domaine-là.
Oui. Je veux savoir, M. Cloutier, vous êtes... quel âge avez-vous?
C'est 51 ans.
51 ans. Vous êtes... est-ce que vous travaillez?
Oui, je travaille depuis 25 ans.
Vous travaillez depuis 25 ans?
Pour Hydro-Québec. Ça fait 30 ans que je travaille.
Oui, vous travaillez pour Hydro-Québec depuis 25 ans. Qu'est-ce que vous faites comme travail?
Je suis un dépanneur thermographe. C'est inspecteur en structure souterraine électrique, là.
OK, c'est inspecteur. Et est-ce que vous avez des problèmes avec les policiers?
Non, j'ai jamais eu de problème.
Jamais de problème dans toute votre vie?
Je paye mes taxes, je fais mes... je suis un citoyen modèle,
pas de problème. Pas de problème. Alors, si on va revenir juste à cette date-là, de la date de l'événement, on parle du... on parle justement de la nuit des jeudis à vendredi. Le 4, hein, c'est ça, si on parle le 4 janvier,
oui,
ce janvier-là, le 4 janvier,
oui.
2013, c'est ça?
Exact.
Donc, vous rentrez de chez vous, vous travaillez à le quart de nuit?
Je travaille le quart de soir, donc
le soir,
de 15h30 à minuit.
OK.
Et donc, il y a un de mes confrères qui est venu me reconduire ici, je suis près du travail, là, ça a dû prendre environ 6 minutes.
6 minutes ici? Vous rentrez chez vous vers minuit 10.
Et qu'est-ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé chez vous vers minuit 10?
Immédiatement, je suis monté en haut. Je suis rentré chez vous.
Ouais.
Je suis allé porter mon pack-sac. Ouais. J'ai gardé mon manteau, mes bottes. Je suis sorti immédiatement à l'extérieur pour aller chercher mes ordures, donc ma poubelle et un sac de poubelle.
Vous êtes rentré chez vous, donc c'était le lendemain, c'était, je pense, c'est les ordures qui passent, c'est ça?
Le vendredi matin, pour nous, dans la rue, c'est les ordures.
De
la
ville. Alors, vous êtes allé chercher
Les choses derrière mon condo. Moi, je demeure au deuxième étage.
Oui, oui, oui.
Donc, je suis passé comme dans la ruelle pour aller sur mon terrain au deuxième étage. J'ai pris les choses, puis en descendant que l'incident est arrivé, en ouvrant la porte, en étant sur mon terrain, à l'intérieur des clôtures.
Oui, je comprends. Alors, M. Cloutier, vous descendez en bas pour aller chercher les poubelles. C'était vide, hein, j'imagine. C'était vide ou... Vous avez sorti les poubelles, vous voulez dire?
Oui.
Ah, vous êtes allé chercher.
En haut. En bas, j'ai ouvert la porte pour pouvoir sortir dans la ruelle pour aller porter les poubelles à la rue.
Et à minuit 10, à minuit 4, qu'est-ce qui est arrivé au moment que vous êtes en train de sortir votre poubelle?
Ben, par surprise, parce que j'étais extrêmement surpris.
Surpris de voir quoi, monsieur?
De voir un policier armé avec un revolver pointant sur moi. Là.
Oui.
J'avais peur, là. J'ai jamais vu ça.
Alors, vous savez pas, le policier venait d'où, là? Vous avez un seul coup, là, un policier qui se pointe devant vous avec un pistolet en face.
J'ai pas vu d'où il venait, parce que la barrière était barrée. Et puis
qu'est-ce qu'il vous a dit, le policier, quand vous a pointé avec le pistolet, là?
Je crois que sa première phrase était « les mains en l'air ». Très fort.
Oui.
« Les mains en l'air !»
Oui.
Puis, par la suite, j'ai lâché mes poubelles.
Oui.
J'ai levé les mains doucement. Oui. « À terre, à terre !» Okay. J'ai dit « je ne suis pas coupable, je n'ai rien fait. »
Vous ne comprenez pas pourquoi?
Non.
Vous ne comprenez pas. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez obéi à l'ordre du policier?
Tout de suite, j'ai mis mon visage à terre et mes deux mains à terre. Je me suis mis à genoux.
Oui.
Sur la neige, il y avait beaucoup de neige ici. Là.
Oui, d'accord.
Il y avait une épaisseur de neige.
Et après, qu'est-ce qui est arrivé?
Ben, il criait après moi, à terre, à terre! Puis là, il a appelé du renfort. Il y a plusieurs policiers qui sont venus.
Quelques secondes après, plusieurs policiers qui sont venus.
Immédiatement, il y a plusieurs renforts.
J'étais
à terre.
Ça veut dire qu'il y avait des policiers qui étaient alentour, j'imagine.
Qui étaient alentour. Déjà présents. Il y avait un total de 6 voitures de police, donc il y était 12.
12 policiers.
Mais j'en ai vu au moins 10.
Alors là, vous êtes par terre. J'imagine qu'il a essayé de... Est-ce que vous avez expliqué qu'est-ce qui arrive ou est-ce que vous avez parlé? Rien.
Non. Pour lui, j'étais un criminel.
À 100% là.
100%.
Pas de doute. Ok, c'est bon. Alors, vous êtes par terre. Il a essayé de vous menotter ou...
Oui, son but, c'était de me menotter.
Okay.
Et il me demandait de mettre mes deux mains derrière. Par contre, j'avais beaucoup de misère à mettre mes mains derrière puisque j'avais discuté avec mes épaules et mes bras.
Ouais, vous avez un problème avec les épaules. Vous réussissez pas à les mettre complètement en arrière, c'est ça?
Mon visage était déjà à terre, mais ils ont pesé très, 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 très fort. Là.
Et vous avez pesé le visage dans la neige, à l'intérieur de la neige?
Oui, puis il y était plusieurs. Là. J'étais en train de perdre mon souffle. En fait, quand je ne pouvais plus respirer.
Étouffé, là. C'est étouffé.
Je pensais mourir étouffé.
Oui. Explique-nous là.
Ils ont pesé très fort, ma face est rentrée totalement dans la neige, pénétrée, là. Je ne pouvais plus respirer.
Mais parce que là, vous êtes devant moi et je vois que vous avez tout un bleu, là, l'œil en bleu, là, en beurre et tout. Là,
c'est ça qui est arrivé. Là.
Tout est...
C'est la grande pression pendant.
Vous avez une grande blessure.
Plusieurs minutes.
Oui. Contre
la neige, mais finalement,
Monsieur Cloutier, je
suis allé. Jusqu'au sol.
Ouais. Mais ce que je vois aussi, c'est juste un côté qui est abîmé là. Ça veut dire que vous m'expliquez tantôt comme quoi vous essayez de respirer ou qu'est-ce que c'est?
Je tournais la tête pour respirer de l'air. Puis en plus, il criait après moi, mais j'entendais pas beaucoup puisque mes oreilles étaient pleines de neige.
Alors, si j'ai bien compris, M. Cloutier, ça veut dire qu'il essaye de vous craser le visage face au sol. Alors, au moment où il y avait de la neige, et vous essayez, tout ce que vous essayez de faire, c'est de tourner le visage pour prendre un peu d'air, une bouffée d'air, c'est ça, pour respirer.
C'est ça, mais je suis en train de paniquer parce que là, j'avais peur de mourir.
Oui. Ouais. Mais est-ce qu'à ce moment, il y avait juste un seul policier sur vous ou il y avait plusieurs policiers?
D'après ma voisine et tout ça, parce que moi, j'avais déjà mis mon visage à terre quand il y avait un policier.
Oui.
Il était au moins 6, de 6 à 8.
Sur vous?
Oui.
Oui.
Puis ils tenaient toutes mes jambes et ils m'ont déceinturé, déculotté. Ils ont brisé ma montre. Et puis ils m'ont fait une prise de pouce ils m'ont fait une menace.
Mais votre main est dans
que si je n'arrivais pas à mettre les... les menottes, il allait casser mon pouce. Mais je leur disais, j'ai mal au bras, j'ai mal aux épaules. J'arrivais du gym, vous savez, comme il y a deux jours avant, j'étais allé au gymnase.
Oui.
Et j'étais endolori, j'avais de la difficulté à m'étirer totalement. Mais là, c'était pas de ma faute, je faisais pas par exprès. Là.
Oui. Mais là, le message passe pas du tout. Là.
Non, ils ont mis beaucoup, 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 beaucoup de force.
Oui. Mais là, je vois votre bras.
Il y avait des gens de chaque côté puis, qui forçaient vraiment beaucoup. Mes épaules sont très endolories maintenant.
Je vois. Alors, à part l'œil qui est visiblement, il est complètement abîmé, autour de l'œil, pardon, et le bras aussi, qu'est-ce que vous avez dans le bras là? Je vois votre bras, il est complètement.
J'ai le papier. J'ai le papier du médecin qui parle d'une conclusion au visage, au poignet, au pouce et aux épaules.
Ouais. Alors vous avez des blessures partout, finalement.
Ben, pour mettre il aurait dû mettre les menottes à l'avant. Pour moi, ça aurait été plus facile.
Ouais.
Ils ont mis deux paires de menottes, n'ont pas mis juste une.
Ouais.
Et les menottes étaient tellement profondes, tellement fortes.
Votre bras, il est enflé, là, complètement. La main est enflée, là.
Oui, puis ça allait déjà enfler beaucoup. Ça fait quand même 4 jours, là.
Ouais,
c'était beaucoup plus enflé que ça, je vous jure.
Oh my God, oui.
Puis ça l'a coupé. En fin de compte, les menottes étaient en train de couper le sang dans mes poignets, mais aussi, ça l'a ouvert.
Je vois une ouverture, oui.
La peau, là, ça saignait beaucoup, là.
Et ça, c'est pour vous, monsieur. Est-ce qu'on peut savoir, et après, une fois. C'est dur, hein. Maintenant, ce Cloutier, est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit qu'ils ont enlevé votre ceinture, ils vous ont enlevé votre...
Ils cherchaient pour les armes. Mais c'était fait de façon
pensé que vous êtes
brutale,
armé.
Brutale et sauvage.
Oui.
Moi, je suis un citoyen. Même un criminel doit être traité avec...
Le minimum,
Avec respect, avec tolérance.
Oui.
Pas faire... Surtout quand la personne est déjà à terre, elle a déjà... Il me semble qu'on ne met pas une force
excessive
pour faire du mal.
Pour vous, ils n'avaient pas besoin de tout ça.
Ben,
finalement, ils vous ont demandé d'être par terre. Si tu es par terre, vous levez les bras, vous avez répondu à tout ce qu'ils veulent, c'est ça?
Ben, moi,
et vous voyez que
de mon mieux pour répondre
à
leur demande. Puis, ouais. De toute façon, avec un arme dans le visage, monsieur... Là,
vous ne pouvez rien faire, oui, je comprends.
Ben, j'avais pas le goût de...
Oui. Non, mais pour vous.
Pas obéir, je voulais obéir.
Monsieur Cloutier, vous êtes en train de me dire que cette force est trop excessive. C'est ça que vous
pensez,
hein? Trop excessive. Avec toutes ces blessures-là, on va comprendre plus tard aussi que vous avez un arrêt de travail, que vous ne bougez pas, vous êtes traumatisé. Tout ça, pour finir, les policiers vont vous dire, monsieur, excusez-nous, nous sommes trompés.
Bon, je suis allé hier pour chercher la plainte. Là, puis,
la plainte pour envoyer une plainte à la déontologie policière.
La personne est venue s'excuser devant moi et tout ça. Puis.
Mais qu'est-ce qui est arrivé là? Parce que les gens qui vous écoutent maintenant.
C'est facile de dire je m'excuse.
Ouais.
C'est comme si je vois tuer une personne, après ça je vais dire ben non, je m'excuse.
Non, monsieur Cloutier, est-ce que voulez-vous expliquer aux gens là, qui vous écoutent ce matin? Après ça, ils se sont rendus compte comme quoi il y avait un appel, un autre appel, pour comme quoi il y a quelqu'un qui est
tenté de. Ce qu'ils m'ont dit par la suite.
Ils vous ont dit quoi, monsieur Cloutier?
C'est une vieille dame qui a fait un appel parce qu'il y avait une personne qui a fait une introduction.
Ouais.
Et ils m'ont dit que...
Dans le quartier, là.
J'étais la seule personne, peut-être, là, alentour de cette maison-là, mais j'étais chez nous, sur mon terrain.
Donc vous arrivez à votre travail.
Puis ils ont dit que la description me ressemblait.
Correspond à...
Mais en fait, c'est que la description que la madame avait faite, c'était un jeune homme qui avait dans la vingtaine des cheveux totalement courts.
Ouais.
Moi, j'ai quand même beaucoup de cheveux, comme vous pouvez voir. J'ai pas les cheveux très longs, mais j'ai pas les cheveux... mettons comme une brosse là.
Oui.
Et puis j'ai pas 20 ans, j'ai 51.
Oui, oui.
J'arrive de travailler.
Oui.
Puis j'avais des cartes là. J'avais des cartes d'accès à Hydro-Québec.
Oui.
J'avais plein de documents.
Oui.
C'était évident que j'avais des boîtes de travail là, spécialisées. Oui.
C'était pas ta journée là, si on peut dire.
C'était pas ma journée. Puis il me semble qu'ils ont. Qu'ils n'ont pas fait attention à faire un arrêt d'une façon convenable et respectueuse envers le citoyen.
Je comprends. Tout ce que je vois, cette force était tellement excessive qu'ils ont pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Dans ma chaîne seconde, on va faire une pause et on revient avec la fin d'histoire, OK?
Alors voilà, donc, vous avez entendu, donc, c'était une partie du témoignage de M. Denis Cloutier, employé, et plus précisément inspecteur à Hydro-Québec. Bref, c'est un homme, donc, sans histoire, ni avec l'autorité, ni avec d'autres personnes, d'ailleurs. Et comme vous l'avez bien entendu, donc, il rentrait chez lui, hein, après son quart de travail, vers minuit et quart. On part de la nuit du 3 au 4 de ce mois. Alors, ce monsieur, avant même d'ôter ses vêtements de travail... il est redescendu, si vous voulez, de chez lui pour justement jeter ses sacs d'ordures. Donc, une fois en bas, sur son propre terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, il va ouvrir la porte de la clôture pour déposer les sacs de poubelle. Et qu'est-ce qui arrive ? D'un seul coup, il était surpris de voir donc un policier qui le pointe en plein visage avec la pointe de son fusil. Alors on peut, cher auditeur, chère auditrice, on peut facilement s'imaginer à la place de ce monsieur. Vous ouvrez la porte de votre maison et vous êtes directement accueilli par la pointe d'un fusil. Donc on ne vous dit pas « bonjour monsieur », mais plutôt, on va, vous avez tous entendu, on va hurler dans votre face comme une vraie bête enragée. Et ça met encore plus de confusion dans la tête de cette victime qui n'a absolument rien à se reprocher. Il n'était lié ni de près ni de loin à cette intervention policière de la SPVM. On dit que ce n'étaient pas des personnes qui ont participé dans cette intervention, mais plutôt des robots qui les guidaient à distance. Ni soin, vous avez tous remarqué, et encore moins d'intelligence. Tout ce qu'on constate chez nos policiers, malheureusement, c'est la peur. Et donc, ils ont tellement peur, peur de tout ce qui bouge autour d'eux, au point qu'ils font tout, tout ce qu'ils font, c'est tout à fait croche. Alors maintenant, le policier en question qui a posé la pointe de son fusil dans la face de notre victime, il voyait clairement, hein, il voyait clair qu'il était en face de quelqu'un de très calme, hein, qui dépose ses ordures sur les bords de la clôture et qui lève les mains en signe d'obéissance. Bref, tout invite à se questionner avant de passer à cette action non réfléchie et qui n'a fait que du tort, finalement. Le policier, on savait qu'il hurlait comme une vraie bête. « À terre, à terre !» Vous avez entendu le témoignage. La victime, ce malheureux, a tenté de comprendre en quelques secondes qu'est-ce qui se passe autour de lui. Mais il n'avait pas le droit à aucune information. Tout ce qu'il a pu constater, c'est qu'il était devant un policier en rage. Un policier qui cherche juste de peser sur la gâchette de son pistolet. Et combien de personnes, chères auditrices, chers auditeurs, innocentes, sont mortes gratuitement de cette manière ? Le service de la police de la ville de Montréal va dire que le policier n'a que quelques secondes pour décider de ses manœuvres. C'est là, et c'est le seul et unique, c'est la seule et unique défense devant tous les tribunaux. C'est leur formule magique, si vous voulez, de se défendre. Cette formule de stupidité utilisée chaque fois qu'ils vont commettre une gaffe, une stupidité, une honte, et le public demeure spectateur. Ce n'est pas vrai. Nous constatons qu'à 90% les interventions policières sont maladroites. Il leur manque de jugement est visiblement constaté. Dans le cas de M. Cloutier, malgré toute la gentillesse et la sagesse de cette victime, vous voyez qu'il a levé les mains, il a essayé d'informer le policier qui était en face de lui comme quoi il fait fausse route, qu'il s'est trompé de personne, mais il n'y avait rien à faire. Cette machine aveugle qu'on appelle le SPVM ou autre, si vous voulez, quand elle démarre, elle n'a aucune limite, aucun système de ralenti, aucune précaution, aucun avertissement préalable, rien. Et pourtant, on considère faussement cette force de paix comme l'une des meilleures polices au monde. Est-ce que nous avons, ce que nous avons finalement devant nous, c'est tout à fait le contraire. Une vieille machine lourde, construite principalement pour détruire et planter la peur dans la vie des citoyens. On a pu rapidement constater que ce monsieur qui ne portait pas de signes ou expressions manifestes ou de protocole de voleur d'ailleurs, le monsieur avait levé les mains. Il s'est allongé sur le sol tel qu'on lui avait ordonné. Par la suite, il était menotté et imaginez-vous, 6 policiers se sont jetés sur son corps. Maintenant, y aura-t-il quelqu'un qui peut nous dire elle est où cette menace et pourquoi on l'avait empêché de respirer, pourquoi on l'avait tenté de l'étouffer? La victime, il me l'a dit et il a juré qu'il avait pensé pour la première fois à la mort. Alors pourquoi ? Pourquoi, chère auditrice, cher auditeur, autant d'agressivité ? Justement, notre inquiétude vient de ce fait parce qu'on considère que la sécurité de chacun de nous, nous les citoyens, est menacée. Ce n'est pas vrai que le pouvoir veille à notre protection. Nous ne sommes pas protégés contre cette menace de l'abus de l'autorité qui fait à chaque instant une nouvelle victime. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va réagir et se défendre devant les tribunaux contre cette menace. La majorité des victimes vont s'enfermer dans le silence de l'humiliation parce qu'ils ne peuvent pas faire face. L'abuseur est de taille. Et ce n'est pas une seule personne qui peut se tenir debout devant cette force ignorante et aveugle, mais c'est plutôt toute la société concernée par ce drame. Et je vous rappelle, chère auditrice, chère auditeur, toujours, que chaque fois qu'un citoyen est agressé par l'autorité, cela veut dire que nous avons été tous agressés en même temps. Autrement dit, il faut multiplier l'acte de l'agressivité ou de l'agression à l'infini, et ceci jusqu'à l'arrêt total de toute agression. Quand M. Cloutier, cette victime qui a témoigné devant vous ce matin, disait « Je me suis plié à tous les ordres que j'ai reçus », il voulait nous dire qu'il avait souhaité que ce policier qui l'a surpris a pu faire toute la différence dans cette intervention. Il a pu ralentir et stopper même cette machine de destruction qui est le SPVM, apprendre à mieux gérer le stress, à mieux le contrôler. La vie d'un être humain vaut au moins le prix d'être considéré, d'être protégé, d'avoir un peu de l'estime pour la vie de l'autre. La prudence est réclamée. Comment pouvons-nous dire à ces agents, de la paix que la recherche de la paix est beaucoup mieux que... Et beaucoup mieux, tout simplement. Comment dire aussi, c'est vrai que des fois la réalité dépasse largement la fiction. Alors M. Cloutier, victime dans cette histoire, et malgré que le sol était couvert de neige, il s'est mis à terre, plat sur le sol, comme vous l'avez entendu, dans cette position en signe justement d'obéissance totale. La victime pensait que le policier va l'écouter. « Monsieur le policier, je viens de sortir ma poubelle de chez moi. J'habite ici. Mes papiers sont là. Vous pouvez les vérifier. » Il faut souligner aussi que quelques secondes après cette rencontre, 6 autres policiers sont venus porter main forte à leur collègue. C'est là où M. Cloutier avait conclu que sa dernière heure est arrivée. Donc, 6 policiers sur le corps de M. Cloutier et l'un de ces policiers, il s'est préoccupé uniquement de tenir la tête pour l'enfouer dans la neige. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi ce policier avait insisté de garder la tête de la victime enfouée dans la neige. Et malgré que cette victime a tout fait pour tenter de sortir sa tête hors cette quantité de neige qui l'empêchait justement de respirer, le policier avait continué de lui donner des coups à l'arrière de la tête, en lui écrasant la face sur le sol sans aucun souci. C'est justement là que M. Cloutier nous a dit clairement, vu qu'il manquait d'air et que la prise et la force de la pression était tellement forte qu'à un moment donné, il était obligé d'abandonner cette tentative de trouver un peu d'air en essayant de tourner sa tête justement pour prendre de l'air. Alors, c'était ça, sa seule résistance, voire respirer. Vous voyez que vouloir, bien sûr, respirer à tout prix. Alors, il faut voir maintenant le prix de cette résistance. Il me disait, Monsieur Zitouni, pour la première fois de ma vie, j'avais la certitude que j'allais mourir. Chère auditrice, chère auditeur, n'oubliez toujours pas que cette personne n'avait absolument rien à se reprocher. Les policiers cherchaient un suspect qui ne le ressemblait pas du tout. Notre victime a 51 ans et le suspect, soi-disant recherché pour tentative de vol, était dans la vingtaine et la ressemblance ne correspond pas du tout. Et même s'il était le voleur lui-même, qui a permis à ces policiers d'utiliser cette force hautement excessive et non nécessaire? Qui a ordonné à ces bourreaux de racailles d'exécuter les citoyens de cette manière? Qui ce bordel? Chère auditrice, chers auditeurs, demeurez à l'écoute après notre pause musicale. je vous ramènerai un autre, plutôt une autre histoire, mais cette fois, la victime est morte une heure après l'intervention policière. Une intervention trop musclée. Contre qui ? Contre une personne la plus vulnérable qui peut exister. Restez à l'écoute. Voilà donc, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Donc, vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, excusez-moi, chers auditeurs, parce que de ne pas justement pouvoir me retenir des fois, parce que je pense justement à ces gens là, qui ont perdu la vie hein, dans de telles circonstances et qui ne sont pas là aujourd'hui, malheureusement, pour témoigner. Et pour ne vous citer qu'un seul exemple, J'ai devant moi le rapport d'enquête de maître André Kronstrom, les coroners. Donc le rapport sur les causes et les circonstances du décès de M. Michel Barniquez. Donc ce rapport qui m'était envoyé par le coroner le 3 décembre 2012 pour justement réagir, mais j'étais perplexe devant ces formules vides de tout sens qui ont blanchi les policiers impliqués dans cette intervention qui a coûté la vie de ce monsieur. Alors, je vais tenter de vous résumer brièvement cette histoire qui vous allez voir, c'est une histoire qui donne froid au dos. Et vous allez voir aussi, je vous laisse aussi le soin de voir la ressemblance entre cette intervention qui a coûté la vie à ce monsieur, monsieur Barniquez, et vous allez voir aussi l'intervention de la semaine passée ou du témoignage de ce matin qui était justement titré comme quoi monsieur Cloutier disait carrément comme quoi il a pu mourir dans cette intervention là. Alors revenons maintenant à monsieur Barniquez. Vous savez, il est né ce monsieur là il est né le 19 avril 1959 et il est décédé malheureusement le samedi, donc le 28 juin 2003. Plus précisément au coin du boulevard Henri Bourassa et La Cordière, à Montréal-Nord. Donc, l'histoire, un résumé très très bref. Donc, le 10 juin 2003, M. Barniquez, il a commis des voies de fait envers sa conjointe. Alors, après avoir pris quelques cachets d'une substance inconnue, donc il demande à sa conjointe, alors lui-même qu'il demande à sa conjointe d'appeler la police. Il est clair que cette autre victime chercher de l'aide. Donc, si quelqu'un lui demande vraiment, appelez, s'il vous plaît, essayez d'appeler la police parce qu'il avait besoin de l'aide. Alors, accusé plus tard de voies de fait et d'entrave, suspectant justement un état perturbé par la drogue, donc le tribunal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander une évaluation psychiatrique. Et après un suivi justement rigoureux de psychiatre, le psychiatre conseille au tribunal que l'accusé ne soit pas justement déclaré criminellement responsable. Alors il sera relâché et vous constatez que après il n'y avait aucun suivi. Le rapport du psychiatre suggère, même s'il avait suggéré un suivi et une surveillance médicale, malheureusement dans ce cas-là il n'y avait aucun suivi. Alors vous voyez, on part de 10 juin. Quelques jours après, on part de 28 juin, le 28 juin 2003. Alors la même année. Monsieur Barniquez, sous l'effet justement de la consommation, encore, pardon, il rentre dans un dépanneur et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il était tout en sueur. Il prenait une bouteille d'eau, il avale le contenu, et il refuse en même temps de payer. Alors, le commis l'empêche de sortir, il verrouille la porte et il pousse sur le bouton panique relié à la centrale policière. Monsieur Barniquez, il finit par lancer l'argent sur le comptoir. C'est-à-dire qu'il paye la bouteille d'eau en question et le commis, il va le laisser partir. Alors, il va l'ouvrir la porte, il va le laisser partir. Alors, la police le cherche partout. Donc, il y a une voiture de patrouille, une heure et demie après, aperçoit un homme qui correspond au signalement. Donc, le rapport dit que l'homme semble désorienté, ne sachant où aller. Donc, il avait visiblement... il était visiblement sur l'effet de la drogue. Et à l'arrivée justement des policiers, M. Barniquez se sauve à toute vitesse. Encerclé par les policiers, il reçoit des coups. Il essaye de donner des coups à son tour aussi. D'autres policiers arrivent en renfort. Et M. Barniquez trébuche, étant par terre. Il arrive après à repousser les policiers et se sauver de nouveau. Bref, il y avait plusieurs policiers qui se sont venus en renfort. Si vous lisez le rapport et le témoignage des policiers, il vous semble que vous êtes devant un film d'horreur. Ce qu'il faut retenir de cette histoire ou de cette intervention policière, c'est qu'il y avait tellement de policiers sur le corps de ce pauvre. On parle d'un policier qui tenait le bras gauche, un autre qui tenait le bras droit, puisque, soi-disant, qu'il n'y avait aucun policier sur le lieu en ce moment, qui avait des menottes. Donc aussi un policier qui lui tenait la jambe droite, un autre qui lui tenait la jambe gauche, un autre sur le dos. Enfin, le poids, les prises et la pression étaient tellement fortes sur ce malheureux qu'une fois ils l'ont relâché pour le transporter, il était déjà inconscient. et c'était un arrêt cardio-respiratoire. Alors, M. Bernicaise est mort une heure après cette intervention policière. Les policiers, ils étaient tous blanchis de tout soupçon. Et si vous lisez le témoignage de la SPVM concernant l'événement de M. Denis Cloutier, pardon, la SPVM estime que les policiers avaient usé dans l'intervention non justifiée contre M. Cloutier d'une force nécessaire, parce que M. Cloutier avait résisté à son arrestation. Mais la seule différence, c'est que M. Cloutier s'est échappé à cette mort certaine et que M. Bernicaise n'a pas eu cette chance. Une douzaine de policiers, et on arrive de dire sans aucune gêne, il avait résisté à son arrestation. Une réponse formulée d'avance et appliquée dans tous les cas, c'est une aberration, chers auditeurs, chères auditrices. Alors, juste restez à l'écoute. Après la pause musicale, nous allons voir ensemble et tenter de comprendre pourquoi maintenant le journal de la presse avait refusé de publier le témoignage de M. Cloutier concernant le vol de son argent par les agents de la SPVM. Une courte pause et on va revenir avec vous.
Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? Pourras-tu te laisser dénoyer? Elle qui me saoule, toi qui m'enivre. Elle qui saigne mon cœur, toi qui le ravive. Ah, 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 délice pernicieuse. Ah, ah, sans gêne, moratoire affectif. Manipuler sa flamme pour brûler à vif. Ah, 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 douleur délicieuse. Ah, manger des oreillers, baiser chocolat, café au lait, gifle affective qui fouette carré. Si je m'ouvre et te laisse entrer, sauras-tu laisser saigner la plaie? We'll be right back.
Voilà donc, bonjour chère auditrice, cher auditeur. Je vous rappelle que vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, je vais être très bref concernant cette partie. Monsieur Cloutier, après cet événement, avait tenté justement d'informer les médias. Alors, il a communiqué en premier lieu avec le faux négociateur. Donc, il a écrit, et j'étais témoin, il a appelé. Aucune réponse. Il a tenté aussi de communiquer avec Radio-Canada et autres chaînes de télévision. Aucune réponse aussi. Tous les journaux, aucune réponse. Finalement, le journal de la presse avait répondu à l'appel par un article que j'avais cité, un article publié dans la presse du 15 janvier 2013 intitulé « Je pensais que j'allais mourir ». Mais, donc, alors, il faut remarquer d'abord, il faut noter aussi que, il faut noter qu'il ne suffit pas d'être agressé pour que les médias vont intervenir. Il faut que la victime meure. Et pourquoi ? Parce que, comme ça, donc, elles ne peuvent pas justement témoigner de l'agressivité, elles ne peuvent pas témoigner contre les policiers. Je reviens maintenant à l'article. Donc, l'auteur de l'article, j'ai déjà nommé, donc, c'était Mme Gabrielle Deschênes de la presse. Elle m'avait parlé avant de rédiger cet article-là. Et nous tous, tous les deux, on a été d'accord sur le fait que encore plus grave, je dis bien plus grave que l'agression, plus grave que l'agression de cette histoire-là, l'agression de M. Cloutier, c'était le vol de l'argent. Donc imaginez-vous que parmi les policiers qui ont intervenu dans cette intervention de la nuit du 3 au 4 janvier, il y avait au moins, je dis bien au moins, un policier qui a volé environ 200 dollars à la victime. Donc il a pris cet argent au moment où la victime, M. Denis Cloutier, était en train de souffrir entre les mains des policiers. Maintenant, la grande question, qui a ordonné à la presse d'enlever ce témoignage ? Voilà, une autre question qui s'impose dans cet nouvel épisode. Chère auditrice, cher auditeur, voilà, c'est tout le temps qui nous reste dans notre antenne. Donc, j'aimerais bien remercier M. Denis Cloutier pour son courage et ses démarches. Le mouvement Action Justice, je souligne, avait acheminé une plainte à la déontologie policière, à cette institution qui manque largement à ses devoirs. Aussi longtemps, je dis bien, aussi longtemps qu'il n'y aura pas de changement et des grands changements à cette institution, la vie de citoyens demeure toujours menacée. Et aussi la sécurité publique demeure toujours menacée. Je remercie aussi en même temps M. Louis-Joseph Alendi, donc notre technicien de son, pour tout ce qu'il fait pour cette émission-là. Merci aussi à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. À moi, chère auditrice, cher auditeur, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et je vous dis, vous avez notre numéro de téléphone. À tout moment, vous pouvez nous appeler. Nous sommes à l'écoute et cette émission vous appartient. Alors, notre numéro, c'est le 273-4302. Je répète, 273-4302. Et si vous voulez nous écrire, n'oubliez pas, vous pouvez le faire à tout moment. Donc, c'est info@commercial-quebec.com. info@commercial-quebec.com. Sur ça, je vous dis bonne fin de semaine et à vendredi prochain, à la même heure. Au revoir. Till now, I always got by on my own. I never really cared until I met you. C'était sûr que nous deux, c'était pour la vie. Car de tous nos amis, nous étions l'envie. Peu importe les ennuis, notre amour survivrait. Une bonne nuit d'amour nous suffirait. Mais qui aurait cru qu'on se parlerait plus? Que sur notre belle baraque, un jour il n'aurait plus. Que tu verrais plus en moi cet homme qui t'a plu autrefois. Et pour m'en parler, j'aurais même plus de voix. Je me suis dit, je serais mieux sans toi. Que ça ne marcherait pas. Faudrait mieux que l'on arrête là. Faut mieux être seul que mal accompagné. Je l'ai toujours pensé. J'ai besoin que tu comprennes que tu en as. Always got by on my own. I never really cared.
c'est donné, je saurais mieux sans toi que ça. Non, moi, je saurais pas, faudrait mieux que l'on arrête là. Faut mieux être seul que mal accompagné. Je l'ai toujours pensé, j'ai besoin que tu comprennes que.
Je reconnais, tu manques. Je souhaite que mes sentiments me mentent. Mais me disent vrai, pour de vrai, je peux pas dire ça m'enchante. Mais au fond de moi, en secret, j'aimerais que tu m'entendes. Je peux pas l'admettre, car de mon cœur, je dois rester le maître. Mais que ma mère dit que penser comme ça, c'est elle bête. Je fais la fête pour que les pensées dans ma tête arrêtent. Je me pousse à bout jusqu'à brûler comme une cigarette.
Je me suis dit, je saurais mieux sans toi que ça ne marcherait pas. Faudrait mieux que l'on arrête là. Faut mieux être seul que mal accompagné. Je l'ai toujours pensé. J'ai besoin que tu comprennes que. Till now.
De voir qu'est-ce qu'on y trouve. Et ce que j'ai vu, ça m'a déçu. Les gens que j'aimais sont rendus fous à cause de cette soif étanche, de cette foutue poudre blanche. Et quand tu plonges à plein nez, tu penses que tu planes. Mais c'est faux, c'est le saut de l'ange vers le fond du gouffre. J'espère au moins que tu bouffes, car pour l'instant t'as l'arme, un brin d'herbe qui s'étouffe. Et je souffre de voir ça, mon frère, de voir que tu détruis de la sorte, ça m'attriste. Ce que je voudrais, c'est que tu t'en sortes, mais à quel prix? Quand je pense à tout ce que tu m'as pris, avec l'emprise que t'as sur moi, et puis des crises et des cris. Mais ce qui me tue le plus, c'est vraiment que j'y peux rien. J'aurais beau tout donner, mais tu ne feras qu'aller plus loin. Je baisse les bras et sache que je suis rendu là. Tu peux m'en vouloir si tu veux, mais je ne céderai pas. Non, oh non.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Multilingue, international, le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal vous est offert en français, bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire à votre portée. Pour vivre une expérience exceptionnelle dans une université renommée et internationale. Information hec.ca. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Jusqu'où irez-vous?
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, hagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM. Radio Centre-Ville, nous